Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Les vraies voix sur Sud Radio, de l'actualité et des débats comme chaque jour, hein, sans oublier évidemment les analyses pointues de nos vraies voix, les analyses de notre psy, Jean Dorido, voilà qui est là, docteur en psychologie, hypnothérapeute, une fois par semaine pour le psy, c'est une bonne cadence, non Jean?
Écoutez, c'est très bien.
Hein, bah, oui. Nous, c'est le mardi dans les vraies voix, voilà, on voit le psy chaque mardi, c'est ce qui est recommandé, je crois, une fois par semaine en général. Céline Pina est avec nous ce soir.
Dis-moi, Céline, les années ont passé.
J'imagine qu'on ne vous l'a jamais faite celle-là.
Jamais.
Ah bon, mais écoutez, je suis ravie d'être le premier.
C'est ça.
Bah oui. Bah
je
ne
la connais pas par cœur.
Non.
Et j'ai pas haï.
Vous l'avez rencontré, Gaufret ou pas? Moi, je l'ai rencontré une fois. Il est très sympa.
Non, jamais. C'est un bel homme d'ailleurs.
Ouais, c'est un bel homme. Très sympa.
Un type super.
Et j'aime, j'aime beaucoup ses chansons, à part celle-là.
Ah bon, c'est vrai? Ah oui,
non,
parce qu'on
peut
le faire tout le temps.
Sincèrement, c'est un destin dont personne ne rêve.
Oui,
moi,
ça c'est vrai. Si on s'éteint sur les paroles,
c'est vrai. C'est vrai.
Céline Pina est avec nous, donc vous l'avez reconnue, ancienne élue, fondatrice du mouvement Vivre la République. Bonne année, ma chère Céline.
Bonne année.
Philippe Bilger qui est avec nous, de chez lui, magistrat honoraire, mais pas que, voilà. Président de l'Institut de la Parole, en pleine forme ce soir, mon cher Philippe.
Absolument.
Bon, je vois plus le sapin derrière vous. Bon, vous l'avez enlevé, c'est normal.
Ah non, mais non, il est toujours là.
Ah, il est toujours là, excusez-moi, c'est ma myopie. C'est ma myopie, voilà. C'est ça. Bon, je suis ravi.
Il va rester encore quelque temps. Hein. Je pense que la semaine prochaine, il aura disparu.
Tu romps violemment avec tes sapins, comme ça, Noël passe et ça y est, tu le jettes. Non, mais c'est
affreux.
Non,
pas du tout. Mais il y en a voilà, qui veulent faire un peu de place dans la maison, qui jettent le sapin.
Mais Céline, c'est un homme sans cœur, de toute façon.
Non, parce que je savais qu'on peut souhaiter bonne année jusqu'au 30.
C'est pour
décembre,
ça
mais pour
qu'il
le sapin,
parle tout le temps du
pas.
Psy, hein, il a besoin de cœur. Hein.
Oui, j'ai besoin de parler, voilà, c'est ça. Allez, les débats des vraies voix à 17h30, notre premier débat, la vaccination encore et toujours, qui s'accélère apparemment. Hier, des milliers de Français ont été vaccinés. Olivier Véran qui a annoncé un calendrier ce matin. Est-ce qu'on pourra rattraper le retard? On verra. On verra bien. En tout cas, plusieurs maires proposent d'aller plus vite. Et oui, ils demandent à l'État d'organiser la campagne de vaccination dans leur commune. Certains maires disposent déjà de matériel et de locaux. C'est le cas, par exemple, du maire du Raincy, Jean-Michel Genestier, qui aimerait transformer son gymnase en vaccinodrome.
Dans 72 heures, dès qu'on peut avoir le go de l'État, ce centre peut être opérationnel.
Voilà, faut encore le go, le feu vert de l'État. Est-ce que l'État va donner son go, comme le dit Jean-Michel Genestier, qui sera avec nous dans quelques minutes pour nous expliquer ce qu'il compte faire, ce qu'il aimerait faire dans sa commune. Faut-il laisser les maires organiser la campagne de vaccination? 0826 300 300, j'attends vos réactions et vos votes sur le compte Twitter de Sud Radio. Et puis notre grand débat à partir de 18h, Boris Johnson, qui hier s'est adressé aux Anglais.
In England, we must therefore go into a national lockdown. Which is tough enough.
Voilà, il a annoncé hier un reconfinement total de l'Angleterre. Nous devons procéder, dit-il, à un reconfinement total qui est suffisant pour contenir le nouveau variant du virus. Voilà ce qu'a dit Boris Johnson. L'Angleterre confrontée au virus mutant depuis quelques semaines, un virus qui a atteint la France. Il y a des cas en Corse, à Bayonne, un cas recensé à Paris. Olivier Véran qui s'est voulu rassurant, mais qui a quand même expliqué qu'un troisième confinement n'était pas non plus totalement à exclure si les chiffres liés au Covid s'avéraient très mauvais. Alors, comme l'Angleterre, supporteriez-vous un troisième confinement total cette fois? Vous votez sur les réseaux sociaux, on va vous entendre, le 0826 300 300 pour réagir. C'est Zach ce soir, voilà, qui vous attend en standard. Voici tout de suite le tour de table de l'actualité.
Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine?
Je vais vous raconter une histoire pas banale.
Et vous, vous me racontez pas votre petite journée?
On a assez perdu de temps comme ça.
Le tour de table
de l'actualité.
Céline Pina, votre dernière rêve partie, c'était quand, Céline?
C'est ça, c'est en fait j'ai toutes mes artères qui me se réveillent en me disant non, ma vieille, là faut que tu y retournes. Mais je pense que j'y serais pas allée dans les conditions
on va en reparler. Philippe Bilger, rêve partie, vous connaissez que de nom, vous avez déjà été faire un tour dans une rave party?
Je fais des rêves, mais pas de
partie. Ah oui, voilà.
Qui me concerne.
Je m'y attendais. Bah, Jean Dorido non plus, vous n'allez pas en rêve partie.
Vous la vouliez, vous l'avez eu.
Mais oui, vous avez raison.
Je n'y vivais plus, non, c'est vrai.
Ah, parce que vous y avez été.
Bah, il était jeune.
Non, mais je sais bien.
C'est vrai, j'ai porté des culottes courtes.
Il a eu de ses excès, il a eu ses moments de folie.
C'est vrai,
mais
c'est
voyons.
Vrai. La rêve partie donc du 31 décembre à Lioron, en Ille-et-Vilaine, qui continue de faire parler. Un des organisateurs qui a rassemblé 2400 personnes a été mis en examen hier. C'est le tour d'actu de Jean Dorido, juste pour vous rappeler qu'il a envoyé quand même plus de 1000 SMS pour sa rêve partie, hein, l'organisateur.
Oui. Écoutez, il a été mis en examen. Il risque quand même 10 ans de prison, ce monsieur. Ah oui. Et bon, bien sûr, on ne répétera jamais assez à quel point les gestes barrières sont plus que nécessaires en ce moment, absolument indispensables. Pour autant, c'est une intervention d'un de ses collègues dans Le Parisien aujourd'hui en France de ce matin qui m'a interpellé, puisque ce monsieur a déclaré aux journalistes « On est prêt à mourir pour pouvoir vivre ». Et il me semble que c'est important de bien comprendre que on va avoir de plus en plus de problèmes de ce genre, parce qu'il y a toute une population, notamment les jeunes, qui sont, eux, contraints à un confinement extrêmement sévère et difficile, contrairement aux personnes comme vous et moi, qui avons la chance de travailler, de sortir, d'être actifs. Et c'est
quand
vrai
on
que...
prend l'âge, on a sommeil le soir.
Mais c'est un fait. C'est pas insultant que de reconnaître qu'effectivement, il y a une fougue qu'on a à 20 ans, qui s'apaise avec le temps au profit de la sagesse. Et sans blaguer, c'est important de rappeler que même l'OMS définit la santé comme étant un état de bien-être physique, mental et social complet, et rajoute même que la santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et je crois que vraiment ça rappelle à quel point nous sommes, quand je dis nous, c'est collectivement, à travers les gouvernants que nous avons élus, nous sommes en train de sacrifier la vraie vie sur l'autel d'une espèce d'hygiénisme qui, bien sûr, s'impose par les circonstances. Et en même temps, j'aimerais vraiment que nos gouvernants réfléchissent, par exemple, à inventer des lieux de convivialité en attendant que cette épidémie
les gestes
soit derrière
barrières.
Nous. Oui, alors, parce que là, c'est un problème.
Céline Pina, c'est vrai que pour éviter ce genre de fêtes clandestines, il suffit d'en organiser des officiels, des légales. Non, mais c'est vrai, il a raison.
J'aurais peut-être envie de dire que moi, en tout cas, je ne verse pas une larme sur un teufeur. Je suis vraiment beaucoup plus préoccupée par le sort, par exemple, des restaurateurs, des gens qui tiennent des bars, de gens qui travaillent, qui ont mis leur énergie, qui ont mis parfois le produit de toute une vie, et qui aujourd'hui vont tomber comme à Gravelotte, parce qu'on comprend très bien que le 21 janvier, c'est quand même mal barré pour que quoi que ce soit réouvre, et donc on est très inquiet pour eux. Donc moi, c'est plutôt à eux dont j'aimerais rendre un petit peu de liberté. Après, sur les jeunes, oui, je serais assez pour qu'on leur lâche la grappe, mais pas forcément pour qu'ils aillent se rassembler à 1000 pour faire une teuf de ce genre, qui est une provocation à l'égard des efforts que font quand même tout un chacun au quotidien. Donc il y a des limites entre faire un grand bras d'honneur à toute prudence et mettre ça sur le compte d'un désir de vivre, et la réalité d'une jeunesse qui souffre, qui a envie de se retrouver, mais pas forcément dans un champ de boue à 2500.
Mais c'est une bonne idée, sa proposition des fêtes légales, entre guillemets, officielles.
Moi, je serais peut-être beaucoup plus, mais à voir si... pour dire si, après tout, ceux qui sont vraiment menacés sont les plus âgés, ayons... confinons-nous, enfin à partir d'un certain âge, faisons attention et laissons vivre le reste du monde. Ça me paraît pas indécent, peut-être de le demander, surtout que maintenant on a un vaccin, que vont être prioritaires les plus âgés, et qu'on pourrait profiter du fait qu'on ait une porte de sortie pour lâcher un peu la bride à des gens qui depuis un an souffrent énormément.
Ouais. Philippe Bilger, vous en pensez quoi, Philippe ?
Pour ma part, je n'aimerais pas un plaisir licite administré, et ça n'est pas ce que voulait dire Jean, mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans la phrase qu'il a citée, c'est qu'elle mériterait une analyse très approfondie, plus que 10 minutes. Moi, je ne suis pas sensible à cette phrase, à ce qu'elle révèle de romantisme un peu dévoyé. Au fond, c'est très facile de proférer une pensée de cette nature en laissant croire aujourd'hui que la situation est à ce point désespérée qu'on est obligé de soutenir ce paradoxe que on est prêt à vivre jusqu'à mourir. Je comprends bien que sur l'esprit fertile de Jean, ça ait beaucoup d'incidence, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de très sincère, ce romantisme un peu de la crise. Mais pardon, Jean, je serais tout prêt à en discuter si on avait beaucoup de temps, quoi.
Alors, c'est une colère saine ou une colère
Pour moi, c'est vraiment révélateur d'un problème que nos gouvernants ne parviennent pas à voir, parce qu'il faut quand même rappeler que les personnes qui nous gouvernent, les personnes qui font l'actualité, ne sont pas confinées en ce moment, contrairement à deux populations qui souffrent énormément, les jeunes et les seniors. Et on a des intellectuels tout à fait respectables qui ont dénoncé ce truc-là. Bernard-Henri Lévy, Comte Sponville, explique qu'on est en train de basculer dans un hygiénisme qui rend notre démocratie très autoritaire quand même. Et donc là, on a quand même un type qui se retrouve à risquer 10 ans de prison pour avoir organisé une fête. Et je pense qu'il faut relire Rhinocéros de Ionesco, il faut relire, je pense, tous ces trucs-là, parce qu'on est en train de...
Mais si on considère que le Covid est un danger, il a donc mis la vie d'autrui en danger. Bah oui.
Et puis, le problème du teufeur, en général, il occupe des lieux qu'il n'a pas le droit d'occuper. En collectivité locale, il nous est arrivé d'ailleurs de devoir faire le ménage après, parce que bien entendu, ces gens-là utilisent des espaces, et ils n'ont même pas la moindre idée de ne pas les souiller, ou en tout cas de ramasser les souillures derrière. Donc, le problème derrière ces teufeurs, il y a aussi une grosse activité de vente de drogue, parce qu'en fait, on boit peu d'alcool dans les teufs, parce qu'en fait, ce sont d'autres choses que l'on consomme. Donc, à un moment donné, il faut aussi arrêter de fermer les yeux et dire que pour certains, cette histoire a dû être extrêmement lucrative. Donc c'est pas simplement je veux vivre jusqu'à en mourir. On a aussi des gens qui exploitent de façon extrêmement sciemment les faiblesses d'une certaine
jeunesse. Alors en l'occurrence c'était 5 euros le droit d'entrée.
Ça fait plus de 12 000 euros fois 2400.
Et 5 euros parce que l'espace leur appartenait, c'est pour ça qu'ils ont le droit de faire payer un droit d'entrée dans un espace qui ne leur appartient pas. C'est curieux quand même.
Je n'utiliserai pas le terme teuf dans la mesure où je ne suis pas moderne comme Céline. Je trouve toujours cette subtilité. Jean, pour défendre un point de vue tout à fait respectable, prend bien sûr BHL et un autre pour dire que on compte Sponville, mais il oublie de dire. Bien sûr, cette bonne guerre ou de bons débats qu'il y a une multitude d'intellectuels qui n'ont absolument pas eu ce point de vue et que, en général, on a compris les règles et les exigences sanitaires. Enfin, je veux pas prolonger, mon cher Philippe, sinon ce serait évidemment beaucoup trop long, mais c'est un sujet très passionnant, celui qu'a ouvert Jean par cette réflexion.
En tout cas, moi, j'aime beaucoup la proposition de Jean Dorido d'organiser des fêtes légales, en respectant les gestes barrières. Par exemple, si vous enlevez votre sapin de Noël,
Philippe,
on pourrait venir chez vous en respectant les gestes barrières.
Franchement, Philippe, vous n'allez pas me faire croire que vous aimez les fêtes légales, le plaisir réglementaire, c'est le contraire du plaisir.
Oui, c'est vrai que c'est l'interdit. Alors,
je voudrais pas allumer un autre feu de débat avec un autre sujet. Enfin, on a connu, avant Marthe Richard, on a connu des maisons de tolérance en France, elles ont été fermées de mémoire en 1946, ça n'a pas réglé le problème de la prostitution, de la traite des êtres humains, on peut se demander ce que ça... Et la France a pénalisé les clients récemment, je n'ai pas le sentiment que ça ait réglé quoi que ce soit. On pourrait même parler du problème de la prostitution des mineurs dans les cités qui remplace le trafic de drogue.
Oui,
bref, la question des fêtes licites et officielles organisées si on revient juste à des lieux de convivialité, je me réjouis que Philippe Rossi retienne l'idée.
Bon, allez, les vrais voix viennent dans un instant. Oui, Philippe Bilger, allez-y, je vous donne le dernier mot.
J'allais dire, Philippe est prêt à favoriser tous les débats un petit peu discutables.
Les vraies voix qui reviennent dans un instant, la suite du tour de table de l'actualité, évidemment. Et puis notre premier débat dans quelques minutes. Faut-il laisser les maires organiser la campagne de vaccination? C'est ce que demandent certains maires, dont le maire du Rhin-Sy qui sera avec nous dans quelques minutes. Les réseaux sociaux pour voter, le 0826-300-300 pour débattre avec nos vraies voix tout de suite. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You live under psychopaths sitting next to you. You live under murderers sitting next to you.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio. Céline Pina qui est avec nous, Philippe Bilger, Jean Dorido, le premier débat des vraies voix dans quelques instants, quelques minutes maintenant. Faut-il laisser les maires organiser la campagne de vaccination dans leur commune? 0826-300-300 pour réagir évidemment, pour venir débattre avec les vraies voix ce soir et discuter, hein, poser des questions au maire du Raincy qui se propose donc d'organiser dans sa commune la campagne de vaccination. Il a un gymnase qu'il aimerait transformer en vaccinodrome. Il a du matériel. Il sera avec nous dans quelques minutes, mais pour l'heure, on poursuit bien le tour de table de l'actualité. Avec vous, ma chère Céline Pina. Alors, à Lyon, un professeur d'histoire-géographie a dû changer d'établissement. Vous allez nous l'expliquer. Il y a 2 mois, il a été pris à partie par un parent d'élève qui lui reprochait des propos sur la laïcité durant de ses cours.
Eh bien oui, on est une semaine en fait après le meurtre horrible de Samuel Paty.
Début novembre.
C'est ça. Ouais. Et donc ce prof d'histoire fait un cours sur la laïcité, la liberté d'expression, etc. Et se voit pris à partie de façon extrêmement virulente par un parent d'élève. Lequel se voit convoqué à l'intérieur de l'établissement et maintient qu'il a eu tout à fait raison de se comporter comme ça et interdit formellement à l'enseignant d'enseigner la laïcité à ses enfants. Donc, et là-dessus, il est quelque temps après, la fille de ce parent d'élève vient au collège armée d'un couteau. Mmh. Alors, quand vous lisez ça dans la presse, déjà couteau, on va dire un élément contondant. Parce que maintenant, on ne dit plus les mots. Et de la même manière, on a très très peu d'informations sur le contexte réel de cette histoire. La seule chose que je pense, c'est que si c'était Jean Eudes qui avait voulu défendre l'honneur de Jésus-Christ et attaquer la laïcité, on l'aurait su, on aurait même su à quelle paroisse il appartenait. Donc il est fort probable qu'on soit dans le cadre de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire d'une montée en agression sur l'école. Montée en agression qui est lié au fait qu'une certaine partie de la population rejette complètement ce que l'école est censée transmettre, autrement dit les valeurs de la République et notamment la laïcité.
Alors il a porté plainte, hein, ce professeur d'histoire-géographie, donc on devrait en savoir un peu plus normalement.
On devrait en savoir un petit peu plus, mais ce qui est fort inquiétant, c'est l'absence de réaction du rectorat.
Oui.
Ce qui est fort inquiétant, c'est que les professeurs se sont mis en grève justement pour protester contre cette absence de réaction. Ce qui est là encourageant, c'est qu'à l'inverse de Samuel Paty, là, on voit les professeurs qui sont derrière leurs collègues. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce genre de situation va se multiplier parce que ce n'est pas un hasard, c'est dans le cadre, en fait, d'une idéologie qui part à l'attaque de ce qui représente les bastions de l'État et dans lequel l'éducation est un des bastions de l'État. Donc, l'éducation nationale doit arrêter de faire comme si ça n'allait pas recommencer encore et encore, avoir une doctrine, avoir un process et mettre en place tout de suite des modes de sanctions extrêmement forts quand cela se passe. Et de la même manière, il va quand même falloir que le gouvernement s'empare de ces questions et qu'il y ait une réponse à des gens qui se permettent ainsi d'intervenir à l'intérieur des institutions alors qu'ils n'en ont aucune légitimité, qui font énormément de dégâts, dont on a vu ce que ça pouvait donner, et qui aujourd'hui n'ont toujours aucune limite et aucune barrière posée.
C'est vrai que Philippe Bilger, l'éducation nationale est étrangement silencieuse. Il a été reçu hier par le rectorat, mais le parent d'élève toujours pas. Philippe Bilger.
Mais
compliqué
Céline
d'enseigner la laïcité en ce moment et ça va être très compliqué si ce genre d'affaires se multiplie.
Oui, Céline a tout à fait raison de dénoncer cet épisode très préoccupant. Simplement, il faut bien voir qu'il est très difficile pour un pouvoir d'éradiquer une perversion qui existe dans les esprits et les sensibilités et dans une dénaturation totale de l'esprit religieux et bien sûr l'interprétation de la laïcité. Je comprends que nous allons multiplier les indignations parce que, comme le dit très bien Céline, cela va se multiplier, mais je ne voudrais pas qu'on crie victoire trop tôt, d'autant plus qu'à mon sens, ça va être un combat de tous les jours qui n'aura pas de fin.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faudrait durcir la loi
je pense
quand un parent d'élève se mêle comme ça. Alors, qu'est-ce
pas.
Qu'il faut faire, Jean Dorido?
Écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, bon, c'est très compliqué, je trouve, de se prononcer sur cette affaire, parce que c'est vrai que la presse est très, très élusive.
Ouais, on n'en sait pas beaucoup.
On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Ouais. Donc, je crois qu'il faut rester extrêmement prudent. Maintenant, sur la question du fait religieux à l'école, manifestement, il faudrait enseigner le fait religieux à l'école. Je vais faire plaisir à Philippe Bilger, je vais invoquer encore un intellectuel français, même Régis Debray. Vraiment milite pour l'enseignement, parce que la laïcité n'est pas l'absence de religion et de spiritualité. Ouais. Et donc on voit bien qu'on a une espèce de c'est même pas une zone grise, quoi, c'est une espèce d'impasse comme ça, dont l'école publique ne réussit pas à sortir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Premier point, mettre en place l'enseignement du fait religieux à l'école publique. Et puis, ce que peuvent faire chaque Française et chaque Français, c'est que je m'étonne de voir à quel point, chez les CSP+, comme on dit, quelle que soit la sensibilité politique, les gamins sont dans le privé. Oui. Vous n'avez plus de gamins, que ce soit, toutes les sensibilités politiques, même des personnes qui sont profondément de gauche, attachées à l'école républicaine, etc., eh bien, ces gens-là mettent leurs gamins dans le privé.
Il n'y a pas le problème de la fréquentation, il y a aussi le problème du comportement des gamins et des mauvaises notes scolaires aussi, qu'ils seront peut-être plus encadrés dans le privé.
Le problème, c'est qu'il y a toujours une bonne raison, une bonne excuse pour ne pas jouer le jeu, et c'est la responsabilité de chacun. Pour le coup, c'est un pur produit de l'école publique républicaine qui vous le dit. Je suis très attaché à l'école publique et c'est la responsabilité de chacun de faire vivre cette école publique. Ouais. Et la première chose à faire, c'est d'y mettre ses enfants.
C'est vrai.
Alors,
Céline.
Moi, je fais partie des gens qui je mettrai mes enfants dès que je pourrai dans le privé.
Ah oui. Pourquoi ?
Tout simple, pour une bonne raison, c'est qu'à un moment donné, je ne suis pas là pour sauver les institutions, que les institutions fassent leur travail, qu'elles le fassent correctement et ensuite je leur confierai mes enfants. Aujourd'hui, un des soucis que l'on a notamment énormément, alors c'est pas dans les petites classes, hein, c'est surtout sur le collège, c'est que vous avez des endroits où il n'y a pas d'autorité, où il y a très peu de sanctions, où les gens font à peu près n'importe quoi. Là aujourd'hui je suis dans un petit collège tranquille parce que j'ai déménagé, j'ai quitté la région parisienne. Si j'étais en région parisienne, il serait dans le privé. Mais pour revenir à ce que nous disions, je comprends qu'il faille être prudent, mais sincèrement, à partir du moment où, quand un parent d'élève agresse un prof, le prof se retrouve muté et déplacé, c'est qu'on a peur pour sa vie. Jusqu'à présent, qui tue en France, je pense qu'on se voit très bien quelle est l'idéologie. Tout montre, dès que c'est lié à quelque chose autre que l'islamisme, vous avez le nom des gens, vous avez énormément d'informations. Dès que c'est lié à l'islamisme, il faut 3-4 jours, une fois qu'on a sorti les affaires, pour avoir les réponses. Donc, tout m'incite à penser qu'on est quand même dans un cadre qui est un cadre intellectuel et idéologique.
Enfin, attention quand même à ne pas faire excessive. On ne connaît rien à cette histoire.
C'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup. On n'en sait rien. On ne connaît pas le nom du parent non plus, ni de l'élève.
Simplement déplacer un professeur.
On n'a raison, on n'est pas raison.
Déplacer un professeur est extrêmement rare. Que l'on prenne ce type de décision à l'intérieur de l'administration est extrêmement rare. Et tous les gens qui ont géré ce type de choses vous diront que ça, c'est quand même l'indice que le degré de menace a été évalué comme extrêmement fort.
On va suivre l'affaire, puisque évidemment, le professeur a été reçu par le rectorat et les parents d'élèves aussi vont être reçus d'ici quelques jours. Oui, pour terminer, Philippe Bilger.
En ce qui me concerne, avec mes enfants, j'ai été parfaitement équitable. Ils étaient dans le public, dans le privé, pour des raisons et... face à l'opprobre qu'on déverse généralement sur l'univers public, je serais prêt à le défendre parce que mes enfants ont connu des établissements remarquables et des professeurs
fait excellents. Regardez un magistrat honoraire qui est allé dans le public,
Peut-être qu'on peut dire
mais moi,
pour les gens
j'ai passé
qui
quelques années dans un collège religieux.
Pour les gens Céline,
là où Céline a raison, lorsqu'on a des incertitudes dans les médias sur les identité, notamment en matière judiciaire, on devine parfois d'où vient ressort fondamental.
Dans un instant, les débats des vraies voix qui continuent face à la lenteur de la vaccination, certains élus montent au créneau et proposent leur aide à l'État. Certains même disposent de matériel et de locaux, par exemple, pour accueillir les futurs vaccinés. Et la question que l'on vous pose ce soir, faut-il laisser les maires organiser la vaccination dans leur commune? Les vraies voix en débattent dans quelques minutes maintenant avec vous, évidemment, 0826 300 300. Vous nous appelez. On revient très vite, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Monsieur le maire de mon petit... yeux bleus et ne fait pas son âge. Il est aimé de tous ses conseillers, mais pas l'Andior.
Eh oui, les maires, les élus locaux au passage, vous le savez, ce sont les élus préférés des Français. Eh bien, certains maires demandent aujourd'hui au gouvernement de participer à la campagne de vaccination. Plus que ça, des maires proposent d'agir pour accélérer le rythme des injections sur le territoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? 0826 300 301. Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio et vous dites oui à plus de 60%. Faut-il laisser les maires organiser la vaccination dans leur commune? C'est le duel des vraies voix. Et pour le duel des vraies voix, on accueille Mickaël qui nous appelle de Paris. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, mon cher Mickaël. Voilà, vous allez débattre avec nos vraies voix ce soir. Philippe Bilger, magistrat honoraire. Jean Dorido, le psy, et l'ancienne élue Céline Pina, fondatrice du mouvement Vivre la République. Et puis j'aimerais qu'on accueille Jean-Michel Genestier, le maire du Raincy, qui est avec nous. Bonsoir monsieur le maire.
Bonsoir à toutes et à tous, merci de m'avoir invité.
Mais bonsoir, c'est un monsieur plaisir, monsieur le maire, bonne année hein, tout d'abord, mes meilleurs voeux. Bonne santé, évidemment, voilà, bonne santé. Jean-Michel Genestier, maire du Raincy en région parisienne. Alors pour le moment, l'État n'a pas validé la demande d'organisation de certains maires, c'est-à-dire d'aider à la vaccination. En tout cas, vous, c'est ce que vous proposez, monsieur le maire. Je crois que vous avez même un gymnase qui peut servir de vaccinodrome, c'est ça?
Oui, alors les expressions sont différentes. Moi, j'appelle ça effectivement un salon de vaccination de proximité, parce que les mots ont un sens très important, et quand on dit vaccinodrome, ça peut inquiéter. Et
c'est
il est très important de rassurer la population. Si on veut qu'une majorité de Français soit vaccinée à terme pour limiter l'évolution de cette pandémie, c'est un premier sujet. Le second sujet, c'est effectivement le fait que la ville du Raincy, j'ai proposé que nous puissions mettre en place une logistique matérielle qui permette un accueil, qui permette d'avoir eh bien, la possibilité pour des médecins, et j'en ai déjà plusieurs dans le cadre du conseil de santé que j'ai, municipal, où des médecins m'ont dit, eh bien, écoutez, la consultation pré-vaccinale, on est prêt à la faire dans l'endroit que vous aurez désigné. Et des infirmiers, des infirmières, des médicaux qui sont prêts aussi à assurer cette vaccination. Donc on a cette proximité, je pense que d'autres maires, comme vous l'avez indiqué précédemment, sont sur cette ligne, et on est prêt. Voilà.
Bon, donc, alors il vous manque juste le feu vert, voilà, le go de l'État
voilà.
En fait.
Tout à fait. L'État, qui est un peu muet aujourd'hui, alors j'espère que l'État ne sera pas muet beaucoup plus longtemps, parce qu'aujourd'hui, ni le sous-préfet du Raincy, puisque nous sommes chef-lieu d'arrondissement, le préfet est au plus haut sommet de l'État, eh bien j'espère que la main que nous tendons et que je tends, eh bien sera reprise par l'État, parce que nous sommes là simplement pour apporter un accélérateur à la vaccination. Ça, c'est vraiment très, très important.
Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Philippe Bilger, je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, les maires, vous pourriez envoyer des messages aux habitants, par exemple, pour qu'ils sachent qui est à risque, qui ne l'est pas, qui doit se faire vacciner. Ben, Philippe Bilger.
Bien sûr.
Oui, monsieur le maire, vous avez, avec beaucoup de délicatesse, rappelé que des initiatives comme la vôtre ont déjà été prises. Je pense, par exemple, au maire de Poissy, Karl Olive, qui a également mis à la disposition une grande salle de sport. Mais ma question est celle-ci, monsieur le maire. Si, en réalité, nous n'étions pas confrontés à ce qu'on pourrait déjà appeler un fiasco dans la gestion des vaccins, est-ce que vous auriez pris cette initiative ou est-ce qu'elle est le résultat, la conséquence d'une forme d'impéritie du pouvoir?
Je crois que la réaction de la ville du Raincy, c'est effectivement une réaction et une gestion chaotique de la logistique et aussi de la stratégie. Parce que autant nous avons participé à toute la période fabrication de masques où j'ai eu 80 personnes qui ont fabriqué des masques, j'ai eu une entreprise locale qui a fabriqué aussi des masques, les tests antigéniques ont été portés très largement par les pharmaciens, mais aussi par la ville, en relation avec la Croix-Rouge en particulier, et là on se retrouve dans une situation où notamment des personnes âgées qui ont plus de 70, 75 ans, moi j'ai ma doyenne qui a 104 ans et qui me dit « Monsieur le maire, je suis en forme, j'ai quand même quelques pathologies, elle emploie d'autres termes, j'estime que je suis prioritaire. » Et en fait, jusqu'à présent, elle ne l'était pas parce qu'on vaccinait dans les EHPAD. Et donc, il y a une vraie difficulté dans la stratégie de l'État sur les cibles. Et donc, il faut impérativement aujourd'hui que ceci change. On a compris ce matin par la voix du ministre de la Santé qu'il y avait un début de changement. Mais ce qui est important, c'est de savoir techniquement et en termes de logistique comment les choses vont se faire. Oui. Donc, nous, on apporte une solution de proximité en disant très clairement que nous avons aujourd'hui la possibilité de rassurer la population. Mmh. Et nous pouvons être un relais positif qui va convaincre la population de venir se faire vacciner. J'étais encore tout à l'heure avec des jeunes collégiens qui disaient « Oui, c'est pas très important, nous, ça nous concerne pas, etc. » Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à communiquer. Et donc, l'État doit s'appuyer sur les maires. Et que ça ne soit pas, moi, je suis maire sans étiquette, donc j'ai pas d'orientation politique, mais quelle que soit l'orientation politique des maires, l'État peut s'appuyer sur tous. Mmh. Encore une fois, il est important de se rappeler que le maire est l'agent de l'État dans la commune.
En tout cas, monsieur le maire, si j'étais Emmanuel Macron, je vous aurais nommé monsieur vaccin à la place de Fischer. Hein, parce que franchement, vous êtes très rassurant, beaucoup de pédagogie. Non, mais c'est vrai. Hein.
Oui, vous auriez pu être deux d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, il n'y a pas de mal. Alors, qu'en pensent les vraies voix juste avant Mickaël qui est avec nous, Mickaël de Paris, qui trouve que c'est plutôt une bonne idée de laisser les maires organiser cette campagne de vaccination. Salut Mickaël.
Oui, je suis plutôt pour. Même si à la base, je suis pas un fanat du vaccin qui est proposé, il y a quand même une question que je trouve toujours étrange, c'est qu'on mette toujours le focus sur les anti-vaccins, justement sur les gens qui doutent. Il y a quand même à peu près, je pense, la moitié de la population qui a envie de se faire vacciner. Et si on offre les moyens aux gens de se faire vacciner, c'est quand même plus intéressant de s'intéresser aux gens qui y sont. Voilà. Et donc, d'offrir toutes les possibilités que les maires puissent offrir, que les pharmacies, que tout le monde puisse offrir la possibilité de se faire vacciner aux gens qui n'attendent que ça. Ben oui. Alors, je ne comprends pas pourquoi l'ambiance est tellement focalisée sur les sceptiques, qui représentent une partie, mais pas quand même la majorité de la France. Et il y a toute une moitié qui l'attend le vaccin.
Et qui aimerait se faire vacciner, c'est vrai. Jean Dorido, vous allez vous faire vacciner, hein, Mickaël ?
Ah ben, finalement, oui. Bon. Je préfère attendre Sanofi, mais Sanofi traînant à faire le vaccin.
Vous allez faire le vaccin Pfizer. Alors, bonne idée pour Mickaël, donc, de laisser ses maires organiser la campagne de vaccination, Jean Dorido.
Ah ben, de toute façon, ça ne peut aller que dans le bon sens. C'est vrai qu'on a un gouvernement qui paye cash son arrogance bureaucratique, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment, là, c'est assez terrible de voir à quel point, sur un problème de logistique, c'est une science, la logistique. Donc, même M. Fischer, dont vous avez parlé, Philippe Rossi, rappelait presque en riant qu'il ne connaît rien à la logistique. C'est quand même M. Vaccin. Donc, c'est vrai que le fait qu'on a 35 000 communes en France, que, comme le rappelait M. le maire du Rhin-Sy, c'est quand même c'est le premier. Voilà, c'est déjà une personne élue, le maire. C'est quand même plus sympa que des personnes tirées au sort pour discuter du vaccin. Là, c'est quand même complètement ahurissant, cette histoire. Et c'est vrai que et c'est évidemment souhaitable et louable que ce représentant justement de la République, dans les 35 000 communes de France, soit un maillon essentiel de la vaccination à grande échelle, c'est sûr.
Céline Pina.
En fait, on a le sentiment qu'on a réussi à nous pondre avec, quelque part, des objectifs relativement simples, une usine à gaz qui ne fonctionne pas. Or, on a eu déjà, finalement, un souci il y a quelques années avec H1N1. Et je rappelle que sur H1N1, en fait, on a demandé aux maires, au préfet également, mais ils sont beaucoup appuyés sur les maires, d'organiser cette vaccination. Ça a été fait en réquisitionnant des gymnases, un certain nombre d'endroits. Je pense qu'on pourrait tout à fait recommencer en associant les médecins qui sont d'ailleurs prêts à prendre leur part dans cette bataille et qui accepteraient probablement beaucoup de choses. Et on est dans une campagne. Une campagne sur un territoire, ça se fait déjà en quadrillant le territoire. Comme vient de le dire Jean, on a 36 6000 communes, il n'y a pas mieux pour quadriller un territoire, d'autant que dans ces communes, la plupart gèrent en fait des populations qui sortent de l'ordre de 6-7000. On n'est pas, on gère pas des 50 000, ça. Et ceux qui gèrent des villes de 50 000 personnes savent très très bien gérer la logistique, parce que très souvent, ils ont à organiser des événements, et cet organisationnel, ils ont les gens pour le faire, ils ont les structures pour accueillir, ils ont tout ce qu'il faut. Ce qui est aberrant, c'est que ça ne soit pas venu à l'idée du gouvernement ou des gens qui gèrent le ministère de la Santé, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas que les politiques qui sont défaillants. On a vraiment un problème avec notre haute fonction publique également.
C'est vrai que ça paraît intuitif, vous avez raison. Hein. C'est étonnant que le gouvernement n'y ait pas pensé. Une dernière question à monsieur le maire, peut-être, Philippe Bilger.
Monsieur le maire, vous avez donné votre opinion sur la manière dont ce pouvoir gère ce qui est attendu pourtant avec espérance par une grande partie de la population. Est-ce que globalement, vous êtes également très négatif sur l'ensemble des séquences depuis le mois de mars ?
On peut faire un parallélisme de forme entre la séquence des masques, où on a vu que la gestion n'était pas préventive et suffisamment préventive, et cette séquence qui est probablement avec beaucoup plus d'impact, malheureusement. Évidemment, on regrette cela. Je pense que le gouvernement devrait beaucoup plus s'appuyer sur les forces vives de la nation. Et faire en sorte que, alors, il n'y a pas que les maires, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres personnes qui sont des gens avec des groupes de logistique, par exemple français, qui sont en capacité d'organiser, quelle que soit la logistique proposée, que ce soit dans la chaîne du froid ou pas, eh bien, quelque chose de totalement efficient. Mmh. Et malheureusement, on constate, alors les raisons, je ne les connais pas et je ne peux pas les analyser, on constate vraiment qu'il y a une difficulté à faire confiance et à tendre la main. Mmh. Je pense que le gouvernement devrait changer de posture et tendre la main en direction de ceux qui peuvent faire des choses. Encore une fois, tout le monde ne peut pas faire, mais en l'occurrence, chacun à son niveau a cette capacité.
Est-ce que ce que vous proposez, évidemment, Jean-Michel Genestier, maire du Raincy, on attend donc le go de l'État, il y a un conseil de défense tiens, demain, qui se tient demain matin, peut-être qu'il va en ressortir... Non, j'espère pas, peut-être qu'il va en ressortir donc justement cet appel aux maires pour organiser la campagne de vaccination dans leur commune. Les vraies voix qui reviennent dans un instant et notre deuxième débat dans quelques minutes, l'Iran qui viole l'accord sur le nucléaire. L'Iran qui a annoncé hier avoir repris la production d'uranium enrichi à 20%, ce qui permettrait donc à l'Iran de se doter de l'arme atomique. On en débat dans quelques instants. Comment va réagir Trump ? Tiens, quelle va être la réaction ? Est-ce que ça vous inquiète que l'Iran viole l'accord sur le nucléaire ? 0826-300-300. On revient dans un instant, à tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
C'est la suite des Vraies Voix sur Sud Radio avec Céline Pina, Philippe Bilger, Jean Dorido, notre deuxième débat. Tout de suite, le nucléaire iranien, l'Iran, qui a enclenché donc le processus destiné à produire de l'uranium enrichi à 20%. Ça se passe dans l'usine souterraine de Forodo. Ça dépasse largement le seuil fixé par le fameux accord nucléaire iranien de 2015. Je vous explique quand même en quelques mots ce qui se passe. Fin novembre, un physicien nucléaire iranien a été assassiné, Mohsen Fazighadeh. Attaque attribuée par l'Iran à Israël. Et depuis cette attaque, eh bien, le Parlement iranien a adopté une loi préconisant de produire et stocker au moins 120 kilos par an d'uranium enrichi à 20% et donc de mettre fin aux inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est eux qui vérifient que le pays, que l'Iran donc, ne cherche pas à se doter de la bombe atomique. Et la question que l'on se pose déjà, est-ce que c'est inquiétant ? Et que va faire Donald Trump ? Puisqu'il lui reste 15 jours, pour le moment, c'est Donald Trump qui est toujours aux manettes, hein, qui préside les États-Unis. Philippe Bilger, est-ce que ça vous inquiète l'Iran hier qui a fanfaronné en expliquant qu'ils continuent et ils poursuivent leur programme nucléaire ?
Il y a trois choses qui m'inquiètent. Bien sûr, l'Iran, c'est en permanence pour moi, modeste citoyen français, une inquiétude constante parce que c'est un pays qui fait peur. Deuxième crainte, c'est qu'en effet, comme vous l'avez dit, Donald Trump profite de ces 15 derniers jours pour accomplir, j'allais dire, un coup d'éclat ou une action de pure provocation dangereuse. Mais le troisième élément qui me fait peut-être davantage encore peur, c'est le fait qu'à l'évidence, l'Iran est en train de tester par avance ce que vaut Joe Biden dans la vie internationale. Et c'est un cadeau empoisonné que l'Iran fait à Joe Biden parce que il est moins adressé, j'allais dire, à Donald Trump, dont l'Iran connaît les foucades, mais plus à Joe Biden qui va se trouver dans une situation difficile entre volonté d'action et de riposte et nécessité de maintenir une forme de sauvegarde.
Ouais, est-ce que ça vous inquiète, l'Iran donc, qui annonce, qui poursuit son programme nucléaire iranien? Olivier de Beaucaire est avec nous, 0826-300-300. Bonsoir Olivier.
Bonsoir, mais moi ça m'inquiète pas trop, Trump ne m'inquiète pas. C'est plutôt Biden qui... Parce que Trump, on l'a vu quand on a la Corée du Nord, bon, il ne s'est rien passé, hein. C'est un flop. On a monté des tensions, et là, l'occasion de Trump, c'est de mettre la pagaille. Ben oui. Donc il va faire monter la tension, puis il va partir. Il va partir. Parce que Trump, c'est un anti-guerrier. Il a retiré les troupes de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Somalie. Il est contre la guerre. Il a ramené 12 000 soldats d'Allemagne. Il n'est pas pour la guerre. Mais il ne veut pas se laisser marcher sur les pieds. Donc l'intimidation, il est excellent.
En fait, Bilger a raison. La question, c'est que va faire Biden, alors, en fait. C'est ça, la vraie question.
Mais en réalité, c'est ça. Moi, Biden, on sait depuis des décennies que les États-Unis vivent beaucoup de la guerre dans le monde entier, parce qu'ils facturent, hein, c'est pas gratuit. Hein. Je me souviens en Afghanistan, les premières bombes, 600 000 francs la bombe, c'est le prix d'une maison, 1000 par jour. Il y a quelqu'un qui paye. Donc il n'y a plus de rentrée d'argent de ce côté-là, pas trop. Quoi. Peut-être l'intérêt de relancer une guerre, on a vu ce qui s'était passé avec Saddam Hussein, on a fait une petite guerre, on l'a repris.
Et pour moins que ça, concernant l'Irak. Céline Pina.
Les éléments de contexte ne vont pas du tout dans ce sens-là. Ce qui ne veut pas dire parfois on obtient ce que l'on n'attend pas, mais en gros, en fait, on est toujours dans les conséquences de ce qui s'est passé en 2018, quand Trump décide de se retirer, donc de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Et à ce moment-là, il en profite pour remettre en place de très lourdes sanctions contre l'Iran. Et aujourd'hui, l'Iran va mal. Ce qu'on oublie dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas simplement le relancement de l'enrichissement de l'uranium, il y a aussi l'enraisonnement d'un pétrolier sud-coréen.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'ils... Et en fait, il y a une raison très très simple, c'est que la Corée du Sud a dans ses banques à peu près 8 milliards qui appartiennent à l'Iran et qu'elle conserve jalousement sur la demande des États-Unis. Donc, on est dans un processus de tension. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Trump part, qu'il faut tester Biden, et qu'il pourrait y avoir, finalement, en échange, l'Iran dirait, bon, ben voilà, on est allé sur l'uranium enrichi à 20%. Mais après discussion avec M. Biden, etc., tout le monde retourne dans l'accord. Ouais. Et à ce moment-là, les États-Unis font tomber les sanctions et peuvent les faire tomber parce qu'ils ont obtenu de la part de l'Iran, finalement, une forme de reculade.
J'allais dire échec et mat, mais on a l'impression
donc,
que c'est ça. Hein. C'est incroyable.
On serait dans une comédie qui permettrait à la fois à l'Iran de sortir de ses ennuis en ayant peut-être moins de sanctions.
Et à Biden de calmer le jeu.
Et à Biden de calmer le jeu en passant pour un grand sauveur.
Jean Dorido, pour finir.
Oui, non, pour finir, ben là, je crois que Céline a bien résumé la situation. C'est que le Moyen-Orient, c'est super compliqué. C'est une poudrière, ça, c'est sûr. La guerre de l'atome avec l'Iran, c'est pas 2018, ça remonte à très, très, très longtemps. Toutes les puissances occidentales, de toute façon, sont impliquées là-dedans, la Russie, la France, les USA, et c'est vrai que c'est toujours anxiogène, parce que c'est une situation, c'est une poudrière, avec cet Iran qui a une grosse puissance là-bas, et qui depuis longtemps cherche à développer une bombe atomique, quoi, évidemment.
Ouais. Allez, la conclusion à Philippe Bilger, et remercie Olivier de Beaucaire de nous avoir appelé.
Je trouve qu'on dit que les Français n'ont pas la tête internationale, on a démontré le contraire, mon cher Philippe, par la qualité du débat.
Voilà, bon, bah très bien. Merci à vous, Olivier de Beaucaire. Merci d'avoir débattu avec Les Vraies Voix ce soir au 0826-300-300. On va tout de suite se détendre un petit peu, mais surtout, on va jouer au roi ou à la reine, puisqu'il y en a peut-être une ce soir avec vous, Céline. Le roi de l'info, c'est parti.
Les Vraies Voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Et avec Jean-Marie Bordry, les rois de l'info.
Bonne année
Jean-Marie, je ne me souviens plus si je vous l'avais souhaité hier,
non,
c'est
mais
pour ça, j'ai eu un bug,
jours,
bon, bonne année, voilà.
Recommençons, continuons chers amis, le roi ou la reine de l'info, peut-être Céline Pina et peut-être Laetitia au 0826-300-300 depuis Agen, bonsoir à vous Laetitia.
Bonsoir à vous tous.
Comment ça
bonsoir
va
Laetitia.
Bonsoir
Laetitia.
Bonne année.
Bonne année Laetitia.
Bonne année.
Ma chère Laetitia, je vais vous proposer de choisir une de nos trois vraies voix avec laquelle vous allez jouer contre les deux autres, Philippe Bilger, Jean Dorido ou Céline Pina.
Philippe
Bilger. Allez, je rappelle les règles. Je vais vous poser trois questions.
Avec plaisir.
Je vais vous poser trois questions. Alors, il y a deux cultures générales et une complètement insolite. Vous répondez en premier, ma chère Laetitia. Et puis, si jamais vous vous trompez, vous avez le droit. Eh bien, les vraies voix se battent pour avoir la bonne réponse. Et si c'est Philippe Bilger qui l'a avant les autres, eh bien, vous avez le point quand même. On est bon ?
Oui, on est
c'est
bon.
C'est parti. Allez, on est le 5 janvier, oui, effectivement, c'est la veille de l'Épiphanie. Oui. Comment s'appellent les trois rois mages qui vont bientôt rejoindre la crèche demain ?
Il y a Melchior, Balthazar.
Ouais.
C'est ça ?
Ouais.
Et Gaspard. Et...
Allez, voilà. Je vous accorde le point, vous étiez bien parti.
Mais Laetitia allait le dire. Hein,
oui,
oui,
bien sûr.
Je cherchais.
Vous inquiétez pas, vous avez un point.
Et en fait, j'ai un petit fils qui se prénomme Gaspard, alors j'en ai profité.
Mais écoute, voilà. On peut quand même rappeler que ces trois noms ne sont pas cités dans la Bible. Hein.
Non,
c'est,
bien sûr.
C'est arrivé bien après. Voilà,
de la même manière que dans la Bible, il n'est pas marqué « Vous ferez une crèche avec des santons de Provence ». Ça
oui,
s'appelle
vrai,
une tradition, cher ami. Une tradition toute bête. Effectivement, c'est comme la galette des rois avec la fève. On ne sait pas si c'est frangipane ou galette sèche ou pas, mais dans les deux cas, on adore. Pourquoi
ah oui,
pas.
On adore.
On adore. Et gâteau des rois chez vous, du côté d'Agen, ma chère Laetitia, d'ailleurs, plus que galette, je crois. On continue. C'est l'anniversaire de la disparition d'une reine de France parmi les plus célèbres, Catherine de Médicis. Aujourd'hui, qui était son roi de France de mari?
Alors, attendez.
Au hasard, vous avez le droit, et sinon les vraies voix se battent. Vous
dites un prénom au hasard et un chiffre. Hein.
Elle était mariée avec...
Il y a les prénoms, c'est Henri ou Charles, non?
Ah bah écoutez, vous pouvez peut-être... Oui, ou Louis, pourquoi pas, ou Charles.
Moi j'irai sur le premier,
non.
Philippe. Sur le premier.
Henri, vous avez raison, Laetitia.
Non.
Attendez.
Un chiffre bas, un petit chiffre.
Henri II.
Bravo.
Bravo, vous l'avez. Elle était vachement gentille, Céline Pina, parce qu'elle vous a aidé.
Oui, elle est gentille. Merci.
Effectivement. Henri II, tout à fait. Catherine de Médicis, qui est née le 13 avril 1519 à Florence, en Italie, est décédée donc le 5 janvier 1589 à Blois, dans la belle ville de Blois. Allez, on arrête avec la culture générale. Je sais que Philippe Bilger préfère les clins d'œil.
L'insolite.
Insolite, exactement. Insolite. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, ce sera le clin d'œil des vraies voix dans une heure, à peu près, sur Sud Radio. C'est dans la presse, mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir vu, donc il va falloir deviner quel produit tout à fait étonnant a été inventé par une PME près de Grenoble. Réponse numéro 1. Mais on embrasse votre chien,
ouais,
Laetitia. Je crois qu'il a répondu trop tôt. On recommence. Réponse numéro 1. Quel produit tout à fait bizarre a été inventé par une PME de Grenoble? Réponse numéro 1. Le café à boire, mais sans eau. Réponse numéro 2, le champagne, mais sans bulles. Ou réponse numéro 3, l'œuf, mais sans le jaune, d'après vous. Qu'est-ce qui vous paraît le plus crédible, Laetitia?
Le premier?
Ouais,
ben le bravo. Café, bah oui, 3-0. C'est ça.
Bravo.
Le café à boire sans eau. Ah ben le champagne sans eau. Ouais, mais vous savez, le café à boire sans eau, quand même, c'est difficile aussi,
ouais.
Ça paraît.
Oui, c'est ça.
Ouais. C'est ce que nous expliquera notre invité.
Voilà, dans une petite heure maintenant. Ouais,
effectivement, c'est un sachet de café extrêmement finement moulu que vous mettez dans la bouche et vous avez un espresso en bouche. Vous verrez ça tout à l'heure.
Ah bon,
PME ou du talent.
On n'arrête pas le progrès.
Exactement.
Allez, merci à vous, Laetitia.
Bravo surtout.
Merci, Laetitia. Vous êtes une championne.
Exactement, vous avez bien choisir en plus, vous restez en ligne et puis au standard de Sud Radio, vous allez nous donner votre adresse du côté d'Agen, ma chère Laetitia, et puis on vous enverra un mug Sud Radio pour le petit déjeuner de la nouvelle année.
Voilà, avec du vrai café hein, cette fois. Hein,
voilà, comme vous voulez.
Dans un instant, le grand débat des vraies voix, à l'image de l'Angleterre, supporteriez-vous un confinement total si le virus mutant britannique devenait incontrôlable en France d'ici quelques semaines? Il y a déjà plusieurs cas recensés hein, en France, en Corse, à Bayonne, ou encore un à Paris, 0826 300 300. C'est Zach ce soir qui vous attend au standard. J'attends vos réactions et vos témoignages également. A tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Et les vraies voix sont de retour sur Sud Radio, de l'actualité et des débats avec nos trois vraies voix ce soir. Ce soir donc l'ancienne élue qui est avec nous, Céline Pina, fondatrice du mouvement Vivre la République. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, magistrat honoraire. Et puis notre psy Jean Dorido, docteur en psychologie, hypnothérapeute. Et puis bien sûr, je le rappelle à chaque fois qu'il est là, Zenfi, c'est l'application de Jean Dorido pour se détendre, pour méditer aussi. Voilà.
Ça fait du bien.
Vous
merci
mettez
de
Jean
rappeler,
Dorido
Philippe.
Dans les oreilles, mais vous oui. L'entendez. Normalement, si ça fonctionne, vous vous endormissez. Hein, c'est
installez-vous,
ça. Hein.
Exactement.
Oui. Comment vous faites? On peut faire un essai là, non?
Installez-vous confortablement, ouais. Prenez une bonne respiration. Et concentrez-vous sur toutes les sensations physiques de votre corps qui commencent déjà à se détendre à son propre rythme.
Ah, je vous vois piquer du nez, Céline, un petit peu. Hein.
Mais
vous, Philippe,
mais moi,
vous avez sommeil ou pas?
Philippe,
ça fait du bien.
Ouais, Philippe
Bilger.
C'est la bonne méthode, Jean veut supprimer les contradicteurs.
C'est ça, il faut les
il
endormir.
Il veut vous endormir, c'est ça.
Absolument.
Un plan drague, je ne vous recommande pas.
Ah bon, pourquoi?
Mais si ton plan Drax s'endort...
Ah oui, ça c'est sûr. Oui,
voilà, j'ai pas développé non plus.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Céline vient de parler du drame de ma vie.
C'est-à-dire
j'ai constaté très tôt, étant jeune, que quand je parle aux jolies filles...
Les femmes,
quand, oui, voilà, quand je parle aux jolies filles, ça les endort. J'en ai fait un job.
Bon, bah écoutez, le grand débat des vraies voix, c'est dans quelques minutes. On va essayer de se réveiller un petit peu pour ce grand débat. Boris Johnson qui s'est adressé aux Anglais hier. Écoutez.
In England, we must therefore go into a national lockdown, which is tough enough to contain this variant.
Voilà, le Premier ministre britannique qui a donc annoncé le reconfinement total de l'Angleterre. Voilà ce qu'il a dit. Nous devons procéder à un confinement total qui est suffisant pour contenir le nouveau variant du virus. Voilà ce qu'a dit hier aux Anglais le Premier ministre Boris Johnson. L'Angleterre qui doit faire face depuis quelques semaines maintenant au virus, mutant virus qui a atteint la France. Il y a déjà des cas en Corse, par exemple. Un cas a été recensé à Paris. Olivier Véran qui s'est voulu rassurant mais qui a également expliqué ce matin qu'un troisième confinement n'était pas non plus totalement à exclure si jamais les chiffres liés au Covid s'avéraient très mauvais. Comme l'Angleterre, supporteriez-vous d'être confiné totalement? C'est la question que l'on vous pose ce soir. Le 0826 300 300, j'attends vos réactions et vos votes évidemment sur les réseaux sociaux. On fera un point sondage dans quelques instants évidemment. Le compte Twitter de Sud Radio, c'est parti pour le tour de table de l'actualité.
Les vraies voix Sud Radio.
Le tour de table de l'actu avec Philippe Bilger. Des centaines de personnes, Philippe, qui hier à Paris ont rendu hommage à Cédric Chouvia, vous savez, ce livreur décédé à la suite d'un contrôle de police.
Évidemment, je ne discuterai pas le fait qu'on rende hommage à Cédric Chouvia, qui est mort, quelles que soient les conditions de sa mort. D'autant plus que cette procédure, se rapportant à Cédric Chouvia, grâce à sa veuve, d'une certaine manière, a été traitée d'une manière très convenable, très correcte sur le plan judiciaire. Rien à voir avec l'effervescence, et c'est un faible mot, de l'affaire Adama Traoré. Mais derrière l'hommage qui est rendu et qui souhaiterait que les policiers soient suspendus alors que la procédure est en cours et n'est pas terminée, je voudrais, par moment, je me dis quel dommage que à la fin d'une année, on ne rende pas non plus hommage à la multitude des fonctionnaires de police qui ont été rarement tué, heureusement, mais souvent blessé. Et j'ai l'impression d'une inégalité dans le traitement entre le chagrin des familles et un peu l'abstention officielle. Moi, j'aimerais que le ministère de l'Intérieur soit capable aussi, à la fin de l'année, d'organiser des cérémonies et des hommages.
Alors ça, c'est vrai, j'allais vous poser la question, mais qui pourrait organiser donc des hommages aux policiers tués, blessés? Mais vous avez raison, le ministère de l'Intérieur, Jean Dorido...
Il pourrait le faire,
oui.
Oui, non, je crois que Philippe Bilger a raison. De toute façon, la France a un problème avec...
Excusez-moi, les derniers policiers blessés en date, c'était pas plus tard qu'il y a 48 heures à Aulnay-sous-Bois, dimanche. Voilà, des deux policiers qui ont été roués de coups et jetés au sol.
Oui, c'est trois gendarmes qui sont morts en voulant porter secours à une femme victime de violences conjugales. Non, c'est vrai que la France a un problème avec sa police depuis très longtemps. Feu Robert Hossein nous a quittés, paix à son âme. La télévision a repassé Les Misérables. C'est vrai que Misérables, Victor Hugo, enfin, le héros, c'est Jean Valjean.
Ouais. Bon,
et Javert, le policier, c'est vraiment un type mais absolument détestable, à vomir. Et ça fait un bout de temps que ça traîne dans l'imaginaire français un rapport à la police qui n'est pas digne de la fonction de la police, qui est là pour protéger les plus pauvres. Il faut quand même rappeler que les riches n'ont jamais de problème d'insécurité. La police protège les plus pauvres. Et c'est vrai qu'en France, dans l'imaginaire collectif, il y a vraiment un mauvais traitement de la police. C'est regrettable. Il y a eu ce slogan indigne de mai 68, CRS-SS, et ça ne s'arrange pas. Ça fait quand même plus de 50 ans que ça dure maintenant. Et oui, Philippe Bilger, je pense, a raison. Ce serait bon quand même d'apprendre à fêter nos vrais héros, les policiers. On a encore perdu des militaires. Et c'est quand même triste que la jeunesse française connaisse mieux les noms des vedettes de télé-réalité que les vrais héros qui meurent pour la France.
Alors, 74 000, ce chiffre, c'est le nombre de policiers agressés chaque année. Il faut le rappeler, 74 000 policiers agressés chaque année. Céline Pina.
Écoute, sincèrement, j'éprouve pas forcément le besoin de redire en moins bien ce que
a dit Jean Dorido et Philippe
Bigère. Parce que je trouve que réellement, ils mettent le doigt sur l'essentiel. Et surtout, on est aujourd'hui dans des périodes extrêmement tendues et dans lesquelles, si on veut une police républicaine, il faut savoir aussi être derrière elle. Parce que des gens qui se font insulter en permanence, qui se dévouent et qui n'ont pas de reconnaissance de la part de la population, forcément, si on maintient cet état d'esprit, on en arrivera au jour où cette police va dire, écoutez, moi j'arrête, et on a déjà entendu ça en disant, vous voulez pas, j'arrête d'intervenir dans les quartiers, j'arrête d'intervenir, et le jour où ils arrêteront d'intervenir, on va se rendre compte à quel point ils étaient utiles, nécessaires, et à quel point la violence ne vient pas d'eux.
Allez, on va poursuivre le tour de table de l'actualité, évidemment, dans quelques instants. Et puis, notre grand débat à l'image de l'Angleterre. Supporteriez-vous un confinement total si jamais le variant du Covid devenait incontrôlable? 0826 300 300, venez débattre avec les vraies voix. 0826 300 300. Et vous continuez de voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Les vraies voix reviennent dans un instant. Céline Pina, Philippe Bilcher et Jean Dorido ce soir. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe Rossi.
Ah, bon, j'imagine que vous avez tous reconnu la musique des Bronzés Font du Ski, évidemment. Jean Dorido, je vous vois sourire, ça rappelle de bons souvenirs. Elle est trop molle, la neige. Céline Pina.
Moi, j'adore le planter de bâton.
Ah, aussi. Bon, très bien, on va pas faire toutes les répliques non plus. Philippe Bilger, quoi qu'on pourrait. Philippe Bilger, les Bronzés Font du Ski. Est-ce que vous faites partie j'adore. De ces millions de Français qui regardaient chaque année la rediffusion
musique
des Bronzés
de Pierre Bachelet.
Oui, bien sûr, j'ai cherché à conclure aussi bien que Michel Blanc, mais sans succès.
Génial, bon, tout le monde a fait sa réplique ce soir, c'est parfait. Les Bronzés Font du Ski, donc sorti en 1979, et 42 ans plus tard, eh bien, malheureusement, les remontées mécaniques, et c'est une première, sont fermées. C'est un triste bilan qu'affichent les stations de ski après les fêtes. Laurent Garcia est avec nous, bonsoir Laurent Garcia.
Oui, bonsoir.
Bonsoir à vous, bienvenue dans Les Vraies Voix. On vous suit, hein, Laurent Garcia, vous avez eu à l'annonce, évidemment, des faits de la fermeture des remontées mécaniques. On suit avec vous votre station, directeur de la station de ski de Peyragudes dans les Hautes-Pyrénées. Racontez-nous comment se sont passées les vacances dans votre station, mon cher Laurent.
Mais écoutez, ça a été des vacances très enneigées, avec un vrai cadre de montagne hivernale ici dans les Pyrénées, où les vacanciers ont pu, malgré la fermeture des remontées mécaniques, trouver des villages accueillants. C'était la promesse que nous leur avions faite, avec une télécabine ouverte pour rejoindre le front de neige, quelques espaces aménagés pour la luge gratuitement, un peu d'offres de ski sur les tapis débutants qui étaient ouverts avec ou sans moniteur. Et puis, beaucoup d'espace proposés pour la raquette et la randonnée.
Bon, vous avez fait de votre mieux, je l'ai bien compris. Alors, quel était le taux d'occupation? Est-ce qu'il y a eu, vous savez, combien de clients en moins, par exemple, cette année?
Oui, c'est de l'ordre de 70% des clients en moins. On était sur la station d'altitude à 1600 mètres. Nous étions à moins de 20% d'occupation, un petit peu plus la deuxième semaine, autour de 25%. En revanche, en vallée, à Loudenvielle, c'est là que ça a bien marché. C'est un village pyrénéen d'altitude au bord du lac avec son centre de bien-être balnéaire. Et là, on a connu autour des 60% d'occupation, loin de ce qu'on fait habituellement, mais une vie quand même assez agréable pour les vacances en montagne.
Alors, Emmanuel Macron avait dit que les remontées mécaniques rouvriraient normalement le 7 janvier. Est-ce que vous en savez un petit peu plus, Laurent Garcia? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir rouvrir donc après-demain? Ça me paraît compliqué, hein.
Après-demain, je vous dirais que je n'y crois pas. Ouais. En revanche, j'apprécierais vraiment un geste fort avec déjà une date annoncée. C'est ce que nous réclamons, c'est qu'une date soit précisée. Cette date, si elle est au 16 janvier, c'est parfait. Si elle est au 23, on s'en accommodera. Mais en tout cas, il faut vraiment donner un signal fort à la clientèle qui a besoin de réassurance pour pouvoir réserver ses vacances. On a des stocks de février qui sont là, mais malgré tout assez bas par rapport à d'habitude. Et surtout, on a des trésoreries qui, après ces vacances, les comptes n'y sont pas. Donc on a besoin de rentrer de l'argent rapidement si on ne veut pas mettre à plat nos entreprises et les territoires de montagne qui souffrent énormément actuellement.
Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des cafetiers, Philippe Bilger, des restaurateurs, des commerçants. On a parlé beaucoup évidemment des stations de ski, mais il faut y penser parce que c'est pas seulement la station en elle-même, c'est tout l'univers de la montagne qui
tout
est impacté.
L'univers autour, l'environnement, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr.
Jean Dorido.
Oui, non, bah c'est vrai que ça rappelle bien que l'économie, c'est des dominos, et donc c'est vrai que là on arrête la vie purement et simplement, et c'est vrai que c'est un vrai souci. Bon, maintenant, si on essaye malgré tout de positiver dans cette situation si catastrophique, c'est une problématique de toute façon qui existe depuis un certain temps pour la montagne. C'est un vrai secteur d'activité important, la montagne en France, et en même temps, on sait qu'avec le réchauffement climatique, avec tout un tas de choses, on va avoir de toute façon une durée d'enneigement de plus en plus courte. C'est toute la politique des canons à neige, et même maintenant, les stations réfléchissent. C'est ce que disait monsieur à l'instant. Le succès, je dirais, relatif du village des Pyrénées par rapport à la station d'altitude, c'est de proposer une expérience complète aux vacanciers, et que finalement, qu'ils fassent du ski ou pas, que les familles passent des bons moments dans les stations.
C'est ça.
Et donc, bon, si, voilà, c'est malgré, je dirais, cette crise, bon, ben, c'est de toute façon, ça rappelle à quel point il faut que nos montagnes vivent et puissent, quoi qu'il arrive, proposer des bons moments, des bonnes expériences, et que les familles puissent continuer de s'amuser en station.
Vous allez partir au ski en février, Céline Pina, ou pas ?
En fait, je devais, et je fais partie de ces gens qui ne savent pas s'ils doivent réserver ou pas. Il y a plein de problèmes qui se posent. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une logique d'activité physique intensive, comme peut être le ski, il faut voir la taille des studios et le prix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des gens louent 40 mètres carrés pour 6 personnes, le jour où vous n'avez pas de ski, entre nous, c'est assez pénible de passer une semaine dans ces conditions-là. Donc, il y a aussi tout le modèle qui est peut-être à revoir. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est que je comprends la détresse des salariés, des saisonniers, je vois la peur des hôteliers, mais je trouve que du côté des remontées mécaniques, il n'y a pas une énorme pression qui est faite. On a l'impression qu'il y a des gens qui ne peuvent pas gérer les fermetures trop longues et qu'il y en a d'autres qui sont sur des modèles économiques sur lesquels finalement avec le chômage partiel, enfin j'ai le sentiment...
Alors Laurent Garcia va peut-être pouvoir vous répondre.
Oui, moi
Laurent...
le sentiment que j'ai c'est qu'il n'y a pas de solidarité. Donc la personne qui est directeur de la station, elle se bat sur tous les fronts. Mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas conscience d'intérêt commun au niveau des stations de montagne qui fait que je trouve qu'on les entend peu en termes de lobbying.
Laurent Garcia.
Non, moi, je représente un exploitant de remontée mécanique. Je suis directeur d'une société de remontée mécanique. Je suis aux côtés de Domaine Skiable de France, un des représentants des Pyrénées et un représentant de Pyrénées pour France Montagne. Donc, je milite effectivement et j'apprécie votre prise d'antenne parce que c'est cette voie qu'il faut porter. On conteste et je disais, la situation est dramatique. Les comptes n'y sont pas. Et pour la station de Peyragudes qui représente, bon an, mal an, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va sortir à fin janvier à moins de 2 millions d'euros. On ne sait pas où les prendre. On a des engagements de fournisseurs. On vit sur des lignes de trésorerie découvertes depuis le mois de septembre, comme chaque année. Et on reconstitue nos stocks et notre trésorerie petit à petit. Là, on va se retrouver à l'heure où on se parle. On n'a pas reçu un euro du gouvernement qui, il y a un mois, nous a enjoint d'embaucher tout le monde. On l'a fait. On avance les salaires. On a les fournisseurs avec les traites qui continuent. L'ensemble des engagements des partenaires bancaires qui nous soutiennent sur l'ensemble de nos investissements, plus la préparation d'un domaine skiable, parce que si on doit ouvrir dans 10 jours, dans 15 jours, on prépare. On a consommé pour préparer le manteau neigeux avec la neige de culture. Ce sont certes des enneigeurs, ça reste de la montagne propre, mais en tout cas, tout ça, c'est de l'argent qu'on avance. Donc on se retrouve à fin janvier à ne pas savoir comment s'en sortir si on ouvre pas.
Et quel est l'argument qui est, parce que ce qui peut paraître très surprenant, au moins sur les remontées mécaniques, peut-être pas sur les boîtes ou d'autres activités, c'est qu'on est en plein air, il y a quand même beaucoup de tire-fesses, de choses qui sont individuelles. Oui. À la limite, on pourrait demander aux gens de remettre leur masque quand ils sont sur les remontées mécaniques à plusieurs, si vraiment. Donc en fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on nous a toujours expliqué qu'à l'extérieur, le danger était très minoré. Et pourquoi est-ce que vous avez un interlocuteur qui peut entendre ça ou est-ce que vous vous retrouvez devant les pouvoirs publics finalement sans interlocuteur dédié alors que quand même la problématique que vous portez elle est vraiment liée à la montagne et à cette activité particulière?
Alors on a travaillé sur un protocole sanitaire qui a été longuement préparé à l'automne avec le port du masque, comme vous l'avez dit, sur les remontées mécaniques. On a déjà pu tester l'été dernier puisque nous étions ouverts à quelques remontées mécaniques, télécabines, télésièges. Et on arrivait avec ce protocole devant les ministères avec nos représentants qui sont les représentants de l'association des maires de montagne, de l'association des maires des stations de port d'hiver, le représentant de Domaine Skiable de France et j'en passe. Ces gens-là ont été accueillis par les ministères qui étaient prêts à négocier
face à ce protocole qui leur était présenté, qui avait été testé pendant l'été. Maintenant, on n'a pas compris justement pourquoi il nous était interdit d'ouvrir, alors que nous sommes des activités de plein air, qui plus est, à la descente, on est sur des hectares et des hectares, et c'est sans comparaison par rapport à des vacanciers qui sont partis, et nombre de reportages de gens qui partaient en République dominicaine, en Guadeloupe ou ailleurs, qui ont passé plusieurs heures dans un avion confiné, avec un masque, tout comme on le ferait sur un télésiège en plein air. Donc voilà, l'espace naturel est très très large, et donc on n'a pas compris à ce jour qu'est-ce qui était aujourd'hui montré du doigt avec les stations fermées.
Compliqué, Philippe.
A priori les problématiques d'hébergement promiscuité dans des espaces de bars et de restaurations qui par définition sont fermés aujourd'hui. Donc il n'y a pas vraiment de difficultés, je pense, pour nous permettre à la clientèle de venir en montagne.
Philippe Bilger, il devient donc urgent évidemment que Macron et que Jean Castex donnent des dates, hein, aussi bien pour les restaurants que les cinémas que pour les stations de ski, Philippe.
Je suis frappé de voir dans toutes les protestations collectives et de gens parfaitement de bonne foi, au fond, à chaque fois, il y a la même critique, c'est-à-dire qu'on ne parvient pas à déceler, à identifier la cohérence des choix gouvernementaux. C'est cela le problème. Évidemment, il est facile d'opposer à tel exemple un autre, mais globalement, les lignes de force, les critères de choix devraient être tellement décisifs, fondamentaux, que tout le monde, tous les professionnels, dans tous les secteurs, devraient les comprendre une fois passer l'irritation. Mais on sent bien que, même de bonne foi, on ne parvient pas à les déceler.
Merci à vous, directeur. Donc, Laurent Garcia qui était avec nous, directeur de la station de ski Peyragudes, voilà, dans les Hautes-Pyrénées. Bah, on prendra régulièrement de vos nouvelles, évidemment, Laurent Garcia. Et puis, à l'approche des vacances, je crois que c'est entre le 5 et le 6 février. C'est ça, voilà, c'est bientôt, c'est dans un mois.
C'est ça, voilà.
Voilà, donc, il vous faut vraiment une date, évidemment. Bon, allez, le grand débat des vraies voix. Merci à vous, Laurent Garcia.
Merci beaucoup.
Merci à vous, mon cher Laurent. Dans un instant, le grand débat des vraies voix, l'image de l'Angleterre. Supporteriez-vous un confinement total si jamais le virus mutant britannique devenait incontrôlable en France? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio, les réseaux sociaux et le 0826 300 300, évidemment, pour réagir et débattre avec les vraies voix. Ce soir, Philippe Bilger, Céline Pina et Jean Dorido, à tout de suite.
Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio à 18h30. L'Angleterre qui reconfine, confinement total de plusieurs semaines. La balle virus mutant est devenue très très difficile à contrôler. En France, revenons chez nous, plusieurs cas de ce virus britannique ont été détectés. Alors en Corse, il y en a eu à Bayonne, un cas à Paris. Le virus mutant britannique qui est 7 fois plus contagieux, je vous le rappelle. Et la question que l'on vous pose ce soir, à l'image de l'Angleterre, supporteriez-vous un confinement total si le virus mutant britannique devenait incontrôlable en France d'ici quelques semaines? On n'espère pas, évidemment. Pour l'instant, eh bien, vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio et vous répondez non, évidemment, non, à plus de 70%.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Confinement, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. Je suis dans mon confinement, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais.
Supporteriez-vous un confinement total à l'image de l'Angleterre? On en débat avec Philippe Bilger, Céline Pina, Jean Dorido et vous, évidemment, 0826 300 300. On va vous écouter dans quelques instants. Philippe Bilger, est-ce que c'est imaginable pour vous un nouveau confinement, donc confinement total comme on l'a vécu, vous et moi, en mars, hein, les commerces fermés, les restaurants, les écoles, Philippe Bilger?
Alors, franchement, comme Sud Radio parle vrai, je vais essayer d'expliquer très rapidement que je suis partagé. Bien sûr, un confinement total, cette fois-ci, je le vivrai un peu plus difficilement que les précédents, dans la mesure où les restaurants, par exemple, me manquent. À la fin des soirées, lorsque tout à coup, on a envie de sortir et qu'on se dit, tiens, on va aller au resto et qu'on ne peut pas. Mais globalement, je dirais que je me ressens un privilégié. Et au regard de mon caractère et de ma condition professionnelle, je ne serais pas fondamentalement déstabilisé par un troisième confinement. Mais il y a le citoyen qui se préoccupe de la société et du malheur, du malaise, des désastres des autres. Et évidemment, je me sentirais parfaitement égoïste, voire cynique, si je disais le troisième confinement ne posera pas de problème. Ce serait une catastrophe.
Alors évidemment, on parle de la détresse psychologique de plus en plus des Français, notamment des jeunes, des étudiants, mais pas que des seniors. On en parlait avec Jean Dorido. Alors là, Jean, ce serait une catastrophe, le confinement total, pour le mental des Français.
Ah ben ce serait absolument dramatique. Alors évidemment, pour le mental, merci de le rappeler, puisque les spécialistes craignent déjà une épidémie de suicide. Ouais. Même le Premier ministre Jean Castex a évoqué ça le 10 décembre, en l'occurrence pour les étudiants. Maintenant, il y a une vraie épidémie crainte d'épidémie de suicide. On a vu ça, notamment avec la crise de 2008. On avait déjà documenté ça chez les savants avec la crise de 29. On sait que c'est entre 1 à 3 ans après la crise que les suicides explosent, si vous voulez. Donc c'est malheureux. Toutefois, on est en train de programmer, je dirais, les suicides de demain. Et puis, avec la psychologie, il y a le problème extrêmement important aussi de l'économie. La pauvreté explose. Le Secours populaire, le Secours catholique ont expliqué à quel point la pauvreté explose en France. Une précarité absolument inouïe. Et donc, ce serait évidemment... C'est même difficile d'envisager que ce soit possible de confiner de façon, je dirais, raide. Le vrai sujet, c'est les écoles, en fait. C'est est-ce qu'on ferme les écoles ou pas? Tant que les écoles sont ouvertes, eh bien, les parents peuvent travailler. Il y a quand même, il y a une vie quand même dans le pays. Si demain vous fermez les écoles, là, retour au mois de mars. Hein. Voilà, et là, c'est effrayant.
Ouais. Céline Pina, évidemment, on pense au restaurant, au cafetier, au commerce, au cinéma, bref, à toute l'économie française qui serait une troisième fois paralysée. Céline.
Moi, je crains surtout que certains ne se relèvent pas de ce troisième confinement. Déjà, beaucoup de monde ne va pas se relever des premiers et deuxièmes confinements.
Alors, vous pensez aux restaurateurs, notamment.
Oui,
par
je pense
exemple.
Notamment, et puis pas que, il y a un certain nombre d'entreprises. On sait qu'il va y avoir un effet domino. Aujourd'hui, on sait que on parle de troisième confinement, c'est lié aux souches nettement plus... alors, je ne sais pas si elles sont plus agressives, ça, on ne le sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'elles se transmettent beaucoup plus et qu'a priori, ce qu'on nous dit...
Il circulerait plus vite, le virus circulerait plus vite.
Oui, et notamment que les enfants le transmettraient beaucoup plus. D'où l'interrogation sur l'ouverture ou la fermeture des écoles. De ce qu'on voit de l'Angleterre ou d'un certain nombre de pays, il y a des pays qui sont en train de reprendre la voie du reconfinement. Nous, malgré tout, avec les couvre-feux, avec toutes les précautions qu'on prend, pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau des admissions et à l'hôpital et en soins intensifs, ça n'a pas explosé. On n'est pas encore dans une situation où il faudrait vraiment tout arrêter parce qu'on ne peut plus prendre en charge les gens. On a encore une marge. Donc la question, c'est est-ce qu'on échappera à cette explosion? Est-ce que les mesures qu'on prend déjà sont peut-être suffisantes?
Est-ce que ça va nous servir? C'est ce qu'a dit Olivier Véran ce matin.
Oui, peut-être que ça nous évitera la saturation des hôpitaux. Or, on sait que tout est fait en fonction de la saturation des hôpitaux. Donc, si les hôpitaux ne saturent pas, moi, je serais pour qu'on reste sur le schéma qu'on a aujourd'hui, qui est déjà suffisamment lourd, et qu'on n'en rajoute pas. Après, voilà, si jamais... Et la question que je me pose aussi, c'est je comprends on a, chez nos progressistes, la haine des frontières a été érigée en totem. Mais à un moment donné, quand vous avez des souches qui sont plus agressives,
on aurait peut-être dû fermer.
Identifiées dans des pays...
On a fermé la frontière avec le Royaume-Uni.
Les camionneurs s'en souviennent. Ils ont passé Noël,
là-bas.
Camion,
Oui, mais apparemment, on l'a fermé probablement. Alors peut-être qu'on
n'aurait
pas
tôt,
pu. Peut-être qu'on n'aurait pas pu contrôler. Mais c'est vrai qu'on se pose toujours ces questions-là.
C'est vrai. Philippe Bilger, Olivier Véran, ce matin, s'est félicité, a dit regardez les autres pays, par exemple le Royaume-Uni ou encore l'Espagne. Il y a de très l'explosion des cas. Il y a 50 000 cas au Royaume-Uni. Nous, on a beaucoup moins de cas qu'eux. Bah, c'est grâce aux mesures qu'on a prises, notamment le couvre-feu depuis plusieurs semaines, le couvre-feu à 18h depuis deux semaines dans certaines régions. Il a eu raison, Olivier Véran, Philippe Bilger, de se féliciter comme ça ce matin.
Non, de toute manière pas. Il n'y a aucune raison pour un pouvoir, quel qu'il soit, et surtout celui qui, à l'heure actuelle, dirige la France, d'être arrogant. Même si on est de bonne foi, on ne peut pas dire que la gestion de la crise a été éblouissante. Il faut surtout pas faire ce qu'Olivier Véran disait il y a quelque temps, que au fond, les manques, les retards, les incuries étaient délibérés, par conséquent, elles devenaient une qualité. Et puis, il faut arrêter de se comparer en permanence aux autres pays. Ce que demandent les Français, c'était une réussite intrinsèque.
Mmh. Eh oui. Allez, on va accueillir Dominique qui nous appelle des Pyrénées-Orientales au 0826-300-300. Bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir,
bonsoir
tout le monde.
À vous. Bonne année Dominique.
Bonsoir Dominique.
Oui, mais bonne année à tout le monde. Et encore merci à Sud Radio d'être toujours présent.
Mais merci à vous. C'est grâce à vous.
Mais j'allais
merci
vous parler
Dominique.
Un peu du confinement, du troisième confinement.
Ouais.
Et bon, pour vous dire la vérité, moi, ce qui me fait plus peur, c'est le gouvernement que le troisième confinement. Il n'y a pas une vérité qui sort de leur bouche, pour commencer. Ça, c'est grave. Donc, on n'a aucune confiance en eux. Au niveau vaccin, ben, franchement, moi, je connais beaucoup de monde. Je suis entraîneur d'arts martiaux, donc je vois beaucoup de monde. Et je vois il y a encore personne
Dominique,
qui m'a
dit... Dominique, je vous coupe. Parlez bien dans votre téléphone ou enlevez le haut-parleur. C'est dommage, on ne comprend pas votre message. Dominique.
D'accord, attendez.
Voilà, enlevez le haut-parleur, oui. C'est plus agréable, c'est vrai. Mais on vous entend moins bien.
Ok, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Attendez, on va prendre. Ah oui, il y a le parlant tout seul en plus.
Allô, voilà, ça va beaucoup mieux,
ouais,
Dominique.
Je m'excuse, voilà. Donc, je vous disais, moi, je suis entraîneur d'art martiaux, donc je vois beaucoup de monde. Et j'ai encore rencontré personne qui voulait encore se faire le vaccin. Pourtant, je connais du monde, croyez-moi. Je connais beaucoup de monde. Et je connais personne qui veuille le faire.
Alors, moi, je le fais dès qu'il m'y autorise.
Ouais.
Et
je
vaccine tout le monde autour de moi.
Et Jean, non, il est
je commence. Bon, j'attendais le pasteur, voilà, mais je commence à avoir mon point de vue. Donc, sincèrement.
Ah bon.
Et ouais, tout à l'heure, Philippe, ouais, Philippe, tout à l'heure, nous avons eu un auditeur très intéressant qui a dit qu'il faut arrêter de faire la pub de ceux qui n'aiment pas le vaccin,
c'est vrai,
mais parler de la majorité qu'il veut. Pardon,
et c'est ce qu'on fait. Voilà Dominique, on vous a coupé parce qu'il voulait réagir, Philippe Bilger, à ce que vous aviez dit. Dominique, on vous écoute.
Oui, mais moi je réponds à la dame, avec le grand bien vous fasse, faites-le le vaccin, mais ne critiquez pas et ne traitez pas de complotistes qui ne veulent pas le faire. Voilà, donc chacun ses opinions.
Oui, bien d'accord. Sûr, mais vous avez raison de vous poser la question.
Non,
il y a 50% des Français qui se posent
qui
la question, vous avez
raison.
Ce qui est
intéressant, c'est la différence entre les complotistes et ceux qui ne le sont pas. Les gens qui ne sont pas complotistes doutent. Donc, ils vont vous dire, écoutez, peut-être le vaccin, il a été développé trop tôt, on préférait que d'autres se vaccinent et voir
ce que
ça donne,
c'est légitime,
etc.
C'est inquiétant.
Le complotiste, lui, il vous explique que les gouvernements veulent tuer la moitié de la planète, qu'on injecte des puces à l'intérieur pour contrôler les gens. Voilà, alors, entre ceux qui doutent et les complotistes, il y a quand même des différences. Oui. Mais beaucoup de complotistes finissent par expliquer qu'ils doutent et en fait vous assènent des vérités dont ils n'ont même pas les moyens scientifiques d'ailleurs de les argumenter. Donc voilà, je fais une différence entre ceux qui doutent et ceux qui font de l'antivax. Ce ne sont pas les mêmes. Ils
Dominique,
ont pas les mêmes
est-ce,
arguments.
Est-ce que vous y croyez, vous, à ce confinement? C'est vrai que ça fait plusieurs semaines on nous dit qu'on irait vers un troisième confinement. Certains disent mi-janvier, 20 janvier, fin janvier. Vous y croyez, vous, Dominique, ou pas?
Moi, ils en sont bien capables, moi j'y crois, moi, oui, mais moi ce qui me ferait peur, je vous dis, c'est pas le confinement, c'est les étés du confinement.
Parce que moi, l'économie. Vous faites quoi, vous, dans la vie, Dominique?
Comment?
Vous faites quoi dans la vie, Dominique?
Mais moi, j'entraîne les gendarmes, les militaires, dans les arts martiaux, dans la défense, tout ça, là. D'accord? Et donc, je vois beaucoup de monde, et même chez les gendarmes, je peux vous dire que. Il y en a 8 sur 10 qui ne veulent pas se vacciner, ça c'est certain.
Ouais. C'est faux. 8 sur 10, le chiffre est faux.
Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup,
on va dire, Dominique. Voilà.
Et puis ensuite,
peut-être pas 8 sur 10,
ensuite,
c'est vrai que ça paraît beaucoup.
Je ne pense pas que Dominique croise les X milliers de personnes.
C'est vrai.
Donc il faut éviter d'extrapoler, de dire tout le monde ne veut pas, dire simplement moi je ne veux pas et mon entourage non plus.
Donc
ça
reconfinement
suffit.
Injustifié selon vous, mon cher Dominique. Laurent est avec nous, Laurent de Montpellier. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Philippe, meilleurs vœux à tous.
Mais meilleurs vœux à vous, Céline Spina est avec nous, Jean Dorido, Philippe Bilger, allez-y. Laurent, alors vous êtes inquiet de ce virus mutant britannique qui est arrivé chez nous.
Inquiet, non, il ne faut pas être inquiet. Il est très contagieux par ce qu'on nous dit, mais est-ce qu'il est très dangereux? Nous n'en savons rien, donc pour l'instant, ne soyons pas inquiets.
Alors il est contagieux, c'est ça Jean?
Oui, exactement, très contagieux, oui. Alors, très contagieux.
Peut-être
oui,
il faut rappeler, pardon Laurent, peut-être c'est le moment de rappeler, si vous voulez, là c'est un truc de matheux. Maintenant en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'à taux de létalité, égal, une augmentation de la contagion, ça fait exploser les morts de façon exponentielle.
Oui,
si le virus, si vous voulez, devenait plus agressif, plus létal, mais sans devenir plus contagieux, là en fait on a peu d'augmentation de morts.
Parce qu'il y aurait plus de cas, c'est mathématique.
Bah oui, et on peut rappeler quand même, pour comprendre à quel point c'est différent, 60 000 nouveaux cas de malades du Covid en Angleterre, au Royaume-Uni, là, aujourd'hui, ouais. alors que nous, la France, on est à 4 000. On a 15 fois moins, ouais. si vous voulez. Ouais. Et après, le mort, il faut multiplier par le taux de létalité. Hélas, on sait que dans la proportion des personnes vont mourir de ce virus, les plus fragiles.
Mais oui. Laurent.
Oui. Bon, écoutez, c'est sûr qu'il y a un matraquage très fort avec ce virus. On ne va pas tous se suicider pour ne pas l'avoir, quand même. Hein. Ce serait peut-être la solution.
Évidemment.
Non, mais voilà. Donc, il est vrai que c'est dangereux. Tout est dangereux. Ce virus l'est aussi. Mais enfin, ça ne décime pas la population mondiale, à ma connaissance. Et on parle beaucoup de cas maintenant et plus trop de décès.
Ah, attendez, hier il y a quand même eu encore 350 décès, mon cher Laurent, ce qui est énorme. 350 décès quotidiennement, on arrive à plus de 65 000.
Mais bien sûr, il y a 650 000 morts par an en France.
Oui, non, mais là on parle du Covid, 60 000 décès du Covid.
J'entends bien.
Peut-être pour répondre à Laurent, pardon, mais si vous voulez, le souci, Dieu merci, ce virus est peu létal. Voilà, c'est pas Ebola. Heureusement, parce que la cochonnerie de ce virus, c'est la facilité avec laquelle il se propage. C'est exponentiel. Vous savez, il y a ce conte persan qui est très intéressant. Vous savez, c'est un mendiant très pauvre qui sauve une princesse. Et le sultan lui dit, tu as sauvé ma fille, demande-moi ce que tu veux. Et il y a un jeu d'échecs, il y a 64 cases sur un jeu d'échecs. Le mendiant lui dit, moi ce que je te demande, tu mets un grain de blé sur la première case, deux sur la suivante, et puis quatre, et puis huit, et puis 16, etc. Et en fait, le sultan s'étonne, dit, mais c'est tout ce que tu veux. Ah, le mendiant dit, ah oui, alors là je suis tranquille. Et le fait est que pour remplir la 64e case de l'échiquier, tout le blé de tout l'Empire ne suffisait pas parce que quand vous faites le calcul, c'est des milliards de grains de blé qu'il faudrait. Et c'est le problème de ce virus. C'est que le R0, le fameux R0, quand il devient supérieur à 1, on a une propagation exponentielle. Donc même s'il y a peu de létalité, ça fait quand même énormément de morts à l'arrivée. Il faut quand même le rappeler, ça. Je pense que c'est important que tout le monde soit lucide là-dessus.
Ouais.
C'est le problème de ce virus, c'est sa contagion.
C'est ça. Il circule. En fait, Alors avec le virus mutant, ce sera pire.
Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que... au moins, la responsabilité est posée, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire qu'il ne se passe rien. Après, on a le droit d'assumer son risque. Mais quand on assume son risque, il ne faut pas se plaindre de ce qui peut se passer derrière. Or là, on a des gens qui contestent le réel. Qui disent, mais en fait, il n'y a rien, tout ça est une énorme manipulation. C'est là où je pense que gens comme moi, on réagit.
Alors Laurent, vous faites quoi, vous, dans la vie, mon cher Laurent ?
Je suis électricien, moi.
D'accord. Alors, comment ça se passe pour vous en période de confinement, j'imagine que vous êtes resté chez vous.
Non.
Non, vous avez quand même travaillé.
Et oui, il faut bien que nous travaillions. Bien sûr que oui, j'ai travaillé.
Je parle du confinement total en mars.
Oui, absolument.
Ah,
j'ai travaillé. D'ailleurs, je me suis fait arrêter sur la gardiole vers le bassin de Thau par des faisans sur la route, puisqu'il y avait très peu de circulation et les animaux sortaient de tous les côtés.
Oui,
voilà. C'est pas un gendarme, c'est un faisan qui m'a arrêté. Bon, je ne l'ai pas écrasé, bien entendu, je l'ai laissé repartir. Et c'est pour dire que, en effet, vous avez raison, il y a un danger. Mais vous vous rendez compte comment on se tord la tête avec ça. Tout le monde ne va pas mourir, je vous le dis d'avance. Ça c'est sûr.
Heureusement.
Oui. Non, voilà. Ça c'est sûr, évidemment. Alors, évidemment.
Moins qu'à la guerre de 40, c'est sûr aussi. Moins qu'à la guerre de 40.
Oui. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas prendre de précautions, évidemment, et protéger.
Ceci dit, ce qu'on oublie, c'est que par exemple, la grippe espagnole a fait beaucoup plus de morts que le conflit de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Laurent. Merci d'avoir donné votre avis, mon cher Laurent. J'aimerais remercier aussi Dominique des Pyrénées-Orientales. Allez, un petit tour de table pour finir. Mon cher Philippe Bilger, plutôt pessimiste quant au nouveau confinement qu'on nous annonce pour fin janvier. Alors, on aura les chiffres normalement fin de semaine, début semaine prochaine, sur les conséquences du 24 décembre et du 31 décembre. Voilà, quels dégâts ça a fait en France. Alors, au niveau des contaminations, on va le voir dans les prochains jours. Philippe Bilger.
Même si peut-être les conséquences sont assez pessimistes, il paraît que le Salomon déjà pressentait le pire. Moi, j'aimerais que, en quelque sorte, malgré la discussion sur les vaccins, on prenne leur arrivée à une vitesse vertigineuse comme une espérance pour 2021.
Oui.
Je suis frappé de voir à quel point on a complètement oublié cette lumière fondamentale qui devrait éclairer le premier trimestre et peut-être à la rigueur jusqu'en juin, quoi.
Alors, vous me rappelez, Jean Dorido, ce que vous m'avez dit ce matin sur celui qui a créé l'ARN, la technique d'ARN messager. C'est une dame, voilà.
C'est une dame, une dame hongroise, qui est d'âge respectable maintenant. Elle était dans le Figaro, je crois, hier, où elle disait quand même, elle connaît le sujet, c'est vraiment une grosse tête, et elle disait qu'avec le vaccin, d'après elle, cet été, ça y est, nous pourrons
une vie normale
comme avant. Voilà.
Bah voilà.
C'est extraordinaire.
Bah voilà, vous allez pouvoir aller à la plage, ma chère Céline.
Et puis peut-être rappeler aux gens que jusqu'à présent, l'humanité s'en est souvent sorti en faisant confiance à son intelligence, à sa capacité de création, et que parfois je suis très effrayée de voir des gens présenter la capacité de création scientifique, la capacité comme quelque chose qui troublerait la nature, qui serait presque vers lequel il ne faudrait pas aller. Jusqu'à présent, si l'homme s'en est sorti, c'est justement parce qu'il a réussi à dominer ce qui l'environnait et à en faire quelque chose. Donc se le rappeler de temps en temps, c'est pas plus mal.
Voilà, et puis on sait jamais, peut-être que Macron va annoncer donc l'aide des maires pour accélérer la campagne de vaccination.
On le souhaite.
Des milliers de Français ont été vaccinés hier. Le gouvernement qui passe la deuxième, et puis après la deuxième, c'est la troisième, la quatrième, la cinquième.
Ça fait plaisir.
Bon, bah, on espère que cet été, on pourra aller en vacances tranquillement. Dans quelques instants, le clin d'œil des vraies voix avec Jean-Marie Bordry. Et la question que l'on vous posait, supporteriez-vous un confinement total? La réponse est non, à plus de 70% sur le compte Twitter de Sud Radio. On revient dans quelques minutes avec Jean-Marie. Le clin d'œil, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Les vraies voix sur Sud Radio, c'est le retour des vraies voix avec Céline Pina qui est avec nous ce soir, Philippe Bilger, Jean Dorido et Jean-Marie Bordry pour le clin d'œil des vraies voix. On va parler café ce soir, hein. Alors on va pas en prendre là parce que sinon on dort pas de la nuit, mais...
Oh.
Ah bon?
Pourquoi pas?
Écoutez. Ah d'accord, bon bah très bien.
Vous êtes trop sensible.
Voilà, c'est ça, on va dire ça.
Quand on a envie de dormir, on dort. Le clin d'œil des vraies voix qui est dédié ce soir aux PME françaises qui sont de plus en plus inventives. Et l'une d'elles, je vous le disais tout à l'heure, près de Grenoble, vient d'inventer un expresso à boire, sans eau, ouais. Un café de poche en quelque sorte. Hein. Plus besoin d'eau, plus besoin de tasse, plus la peine de s'arrêter à la machine à café. Et ça peut nous servir en ce moment vu que les bars sont encore fermés. Bonsoir à vous, Richard Bertonnier.
Bonsoir Jean-Marie.
Bienvenue sur
Sud
Radio.
Bonsoir.
Vous êtes le président fondateur de Piccolo. Alors, vous êtes basé à Mélan, c'est près de Grenoble, hein, dans l'Isère. Vous avez excité la curiosité de nos vraies voix qui sont autour de cette table, qui ont du mal à imaginer un café qu'on boit sans eau. Alors, comment c'est possible?
Eh bien, c'est une opération un peu extraordinaire.
Ouais.
Il faut imaginer 3 grains de café moulus au micron, au 20e de micron, et avec une poudre tellement fine que lorsqu'on la verse sur la langue, eh bien, elle se mélange avec la salive et on obtient exactement une gorgée, comme si on avait bu un vrai café.
Une gorgée, tout simplement, de café, c'est juste un tout petit peu moins chaud, mais sinon, c'est le vrai nom, d'où il vient votre café?
Alors, on a des torréfacteurs en Italie, ça reste quand même le pays du café,
oui.
Et on a développé avec eux cette poudre révolutionnaire,
ouais.
100% naturelle, 100% pure, avec un goût très particulier, puisque c'est un mélange d'arabica et de robusta, avec une proportion et un équilibre très précis, parce qu'on ne peut pas faire ça avec n'importe quel café, et qui laisse une saveur en bouche vraiment incroyable, puisque nos clients nous font systématiquement la remarque d'être frustrés ensuite de ne pas retrouver un goût aussi bon de café.
Donc, en tout cas, et puis c'est validé par les Italiens, ça c'est le plus important, parce qu'en plus les Italiens nous accusent très souvent de massacrer leurs recettes de pâtes. On pense très fort à la carbonara à la crème, par exemple, qui est une hérésie. Et là, en revanche, ils ne vous ont pas accusé de massacrer l'espresso.
Absolument pas, au contraire, c'est un très beau mariage, l'innovation française et la qualité du café italien.
C'est ça, le gage de qualité. Décrivez-moi la sensation qu'on a en bouche quand même, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a besoin de s'imaginer, parce qu'on se verse quand même une petite poudre, il n'y en a pas beaucoup. Donc quelle est la sensation en bouche, tout simplement?
Eh bien, c'est très particulier, parce qu'on a en fin de compte le goût, le retour en bouche d'un vrai café.
Le retour.
Lorsqu'on prend une tasse de café, on va dire traditionnelle. Mmh. Et là, le fait de poser la poudre directement sur la bouche, au fur et à mesure qu'on va saliver, on va sentir se développer cette saveur. Mmh. Et on va avoir un retour en bouche, alors immédiatement évidemment, mais dans les 15 minutes et même jusqu'à une heure et demie, avec ce goût, cette sensation d'avoir pris un café traditionnel.
Un café traditionnel qu'on s'est juste saupoudré sur la langue tout bêtement. Comment vous avez eu cette idée? Ça fait longtemps que ça vous trotte dans la tête, Richard Bertonnet?
Eh bien, j'ai eu, pour des raisons professionnelles, même personnelles, l'occasion de me déplacer beaucoup, en voiture, à cheval, dans la montagne, en marchant. Et c'est vrai que on a souvent la frustration d'avoir envie de prendre un café et de ne pas pouvoir le faire.
C'est ça. Alors, c'était ça ou la thermos?
Exactement. Et Piccolo, en fin de compte, c'est le café des gens qui ne peuvent pas en prendre. Mmh. Alors, pour des raisons géographiques, comme je viens de l'évoquer, mais aussi pour des personnes qui, pour des raisons physiologiques, n'ont pas vraiment le droit de prendre du café avec des taux de caféine élevés. Alors, je pense aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux gens qui ont des problèmes cardiovasculaires. Eh bien, Piccolo a un niveau de caféine très bas, à 2,5%. Un café traditionnel, c'est plutôt entre 4 et 7%. Et ça permet justement à ces personnes-là de retrouver le goût, le vrai goût, puisqu'on est sur un café 100% pur, du café sans les conséquences, on va dire, négatives.
D'accord.
Donc c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Philippe Bilger, vous êtes partant.
Et ce sont des petits prix également, ou c'est...
Alors, c'est le prix d'un café...
Ça coûte combien, monsieur ? Il y a un chroniqueur vulgaire, c'est moi, donc je pose la question du prix.
Alors, on a effectivement, c'est une innovation, donc tout est nouveau, mais on a cherché à rester dans une fourchette de prix qui est quand même tout à fait abordable, entre 2 euros et 2,50 euros prix public, qui est ni plus ni moins que le prix dans un avion, d'accord, dans un train ou même en région parisienne.
C'est ça, exactement, avec l'innovation aussi. Vous avez commencé à le mettre sur le marché quand, cher Richard Bertoni ?
Alors c'est très récent, on a gagné le prix, le concours d'innovation InnoSport en 30 juin cette année, 2020, et on a ouvert une page internet qui s'appelle piccolo.best, et il est commercialisé depuis le mois de juillet sur ce site, et je ne vous cache pas que d'ici la fin du mois de janvier de cette année 2021, on va créer un site qui s'appelle innocafé.com, sur lequel on pourra trouver non seulement Piccolo, mais aussi toute la gamme des cafés innovants qu'on propose.
C'est ça, justement, et ça nous amène à ma dernière question. Ça vous ouvre quoi comme porte, maintenant que vous avez réussi à faire ce café à boire sans eau ? Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme autre innovation ? Le cappuccino, c'est envisageable ou pas, par exemple ? Difficile.
Alors, on a des innovations. Dans le café traditionnel, on fait du café au ginseng, du café aux graines de chanvre bio, du café minceur, donc un café vert, mais on va présenter entre le printemps et l'été 2021 deux innovations majeures avec Piccolo, exactement le même concept. Un café énergisant qui va être le concurrent des boissons énergisantes, mais cette fois-ci de poche et sans eau, et un café à base de CBD, qui est un principe actif du sang.
On en a beaucoup parlé du CBD,
effectivement.
Bon, c'est légal, c'est pas psychotrope, évidemment. Voilà. Mais on fait ce produit dans un premier temps pour le marché canadien.
Bon. Mais écoutez, on va essayer. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Bonne route à Piccolo. Oui. En tout cas, parce que c'est vrai que c'est révolutionnaire. On vous souhaite aussi une excellente année 2020, cher Richard Bertoni, président fondateur de Piccolo. Vous êtes à 2021, vous voyez, je suis resté bloqué. Terrible. À nous, Soribilis, qui s'éternise. Il faut que je reprenne un café. Merci à vous, Richard Bertoni, président fondateur de Piccolo, à Mélan, près de Grenoble.
Merci à vous. Et Jean-Marie, en quelques mots, les voies de l'emploi dans quelques minutes.
Les voies de l'emploi avec Christine Bier et Yves Derisbourg.
Ils arrivent.
Toutes vos questions au 0826-300-300. Tiens, comment redémarrer votre carrière, justement ? Quel conseil avant un entretien d'embauche ? Vous nous appelez. Et puis Christine Bier et Yves Derisbourg vous répondront dans un instant.
Voilà, les voies de l'emploi à 19h. À tout de suite.